уже с пальцов в бубуре. Вот они ехали. Утро виноградное.
И сейчас далеко, далеко.
7 миллиардов в глаза.
И снега, и снега. До тебя мне дойти нелегко.
Avec Emmanuel Bastide. Dans les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins en direct à l'heure d'été, premier jour et saison 3 pour notre série estivale Vivre en ville. Chaque jour, une ville différente, chaque jour, des vies, des heures, des lumières, des voisins et des voisines, bien sûr, qui changent au gré de nos escales, avec les récits de nos correspondants, de RFI, de France 24 ou d'autres invités. Ils sont tous expatriés, à la fois dedans et dehors. Ils décryptent pour nous le quotidien du macadam de Bangkok à Brasilia, en passant par Dushanbe ou Tbilissi. Aujourd'hui, vivre dans une ville bling bling, Moscou, en Russie. Bonjour Madeleine Leroyer.
Bonjour, dobrý deň.
Vous avez vécu 6 ans à Moscou comme correspondante à l'époque de plusieurs médias, dont RFI. Moscou, ville bling bling, pas seulement d'ailleurs chez les riches moscovites, si l'on en croit les manucures rutilantes des voisines russes, quelles que soient leurs conditions sociales.
Rutilantes, scintillantes. La manucure à petits diamants incrustés à la mèche fine. Enfin voilà. Et effectivement, de la caissière à la femme d'affaires. C'est pas du tout quelque chose de réservé à une classe. Bling bling, oui, je vais assumer ce titre parce que la première image de Moscou, c'est que ça décoiffe. Il y a ces voitures que je n'avais jamais vues, des voitures de luxe. Alors, je ne sais pas si on peut citer les marques, mais des voitures, des Bentley, des Jaguar, des Ferrari, des Porsche. La Porsche Carrera, c'est assez commun à Moscou. Et qui, évidemment, côtoie des modèles soviétiques ancienne génération, progressivement remplacés d'ailleurs par la Logan de Renault. Donc, une ville qui décoiffe... qui donne le vertige, où pendant la nuit on croise des créatures de rêve, des jeunes femmes complètement splendides,
même si la vie
perchées sur échasse, voilà, et qui ne sont pas du tout des oiselles.
Voilà. Même si la vie est dure, hein, en même temps, on va le découvrir à Moscou.
On se fait le cuir.
Madeleine Leroyer, vous avez publié Une vie de pintade à Moscou, aux éditions Kalman-Lévy, près de 400 pages, pour scruter vraiment le quotidien des moscovites. Toutes vos questions d'ailleurs, les voisins et les voisines, si vous nous écoutez en direct sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et on répondra bien évidemment. Moscou, capitale de la Fédération de Russie, redevenue capitale après l'effondrement de l'URSS en 91. Au moins 12 millions d'habitants qui concentrent 80% des richesses financières de la Russie. 31 degrés aujourd'hui, ciel nuageux et risque d'averse en fin d'après-midi. Et c'est vous, Madeleine Leroyer, qui signez le programme musical de la ville Bling Bling.
Съемки первого видеоклипа группы «Фабрика».
Я думала, это будет что-то вроде крика режиссера «Не верю еще!»
Именно сегодня на Мосфильме.
Это Мосфильмы, здесь проходят съемки дебютного клипа группы «Фабрика» на песню «Про любовь».
Bienvenue dans la vie bling bling Moscou, racontée par Madeleine Leroyer qui parle russe couramment. Que vient-on d'écouter, Madeleine?
Alors, on vient d'écouter le groupe Fabrika, qui est très emblématique de ce qu'on appelle en Russie la popstar, qui alors est une forme de pollution sonore puisqu'il y en a partout.
Vu comme ça.
C'est-à-dire que c'est à la radio, dans les voitures, les taxis, qu'on prend comme ça en levant la main, ou maintenant sur des applications très sophistiquées type Uber Pop, mais on va pas rentrer dans cette polémique. Donc dans les taxis, dans les cafés, dans les toilettes des bâtiments publics, en fait partout, et
c'est
en général
pop-sa.
C'est la pop ça, et ça s'accompagne de l'image, puisqu'il y a ces clips tous plus sirupeux les uns que les autres et qu'on voit sur les écrans plats, et là c'est encore du bling bling décalé, puisque dans un petit restaurant autoroutier de banlieue de Moscou, un peu miteux, vous allez avoir cet écran plat rutilant avec les filles sublimes qui chantent la pop.
D'ailleurs, dans votre livre Une vie de pintade à Moscou, vous écrivez: Moscou, c'est la capitale mondiale du décolleté abyssal et de la mini-jupe par moins 20 degrés. C'est pas du cliché?
C'est un cliché qui est absolument vérifié et éprouvé.
Donc c'est pas du cliché.
Donc c'est pas du cliché.
Et talon aiguille dans la neige aussi.
Talon aiguille, c'est la technique du pic à glace. Hein. Moi, on m'avait expliqué ça. Il faut planter le talon. Et je me souviens très bien, d'ailleurs, c'était la caissière de la petite supérette en bas de chez moi qui m'avait relevé un jour étalée de tout mon long sur les marches.
Parce que vous aviez testé le talon aiguille vertigineux.
Moi j'étais modestement chaussée de grosses bottes pas très très élégantes. Et zut, je glisse une énième fois, et là elle me dit: ah mais non, il faut passer au talon, et tu plantes le talon façon pique à glace.
Oui,
voilà, et ça se vérifie.
Elles y arrivent, donc
elles y arrivent.
Donc ça donne une espèce de démarche chaloupée, c'est ça, sur le verglas et la neige.
Ça donne une démarche tout à fait chaloupée. Faut quand même noter, hein, pour leur rendre justice, que elles savent aussi porter des bottes plus classiques, comme on en voit chez nous, les bottes en fourrure un peu moumoute, quoi.
Oui. Fashion addict, vous le dites dans votre livre, jusqu'à l'obsession, mais pas un culte pour autant. Et c'est peut-être ça qui déroute le plus une Française.
Alors en fait, ce qui est très déroutant, c'est qu'effectivement, on se dit: oh là là, les filles, mais qu'est-ce que vous nous faites avec ces mini-jupes, ces décolletés, les talons aiguilles? Et on a cette image de femme objet. Et en fait, c'est faux. Elles sont tout sauf des femmes objets, et c'est plutôt ce que j'ai analysé, moi, comme une armure pour faire face aux difficultés du quotidien, parce qu'il faut bien imaginer que les femmes à Moscou, elles charpentent la société. Très souvent, elles ont des quotidiens vraiment pas faciles, avec elles vont être mères célibataires avec un boulot très moyennement payé, mais voilà, elles revêtent leur armure de la pointe du talon jusqu'à...
Donc c'est pas une pression masculine qui dicte ça, c'est un choix assumé, c'est une revanche aussi après les...
Alors c'est une revanche sur l'absence totale de coquetterie à l'époque soviétique, c'est-à-dire que la coquetterie était considérée comme un travers bourgeois, et la femme soviétique était la femme intelligente et travailleuse, diplômée, ingénieure, etc. C'était le modèle, mais c'était pas du tout la coquetterie. Et il y a eu une mode soviétique, mais pensée comme un contre-modèle. Donc à la fois c'est une revanche sur l'époque soviétique, et c'est moi, oui, c'est ça, je pense, une armure. Et à chaque fois que je disais: non mais quand même, vous faites tout ça pour des bonhommes, ça va pas, non, mais pas du tout, c'est pas du tout pour les hommes, elles disent ça. Cela étant dit, évidemment, c'est une société qui reste très patriarcale, dans laquelle le religieux fait un retour très accéléré, avec la complicité du pouvoir politique,
et où les difficultés, et où
tout ça brouille les codes,
c'est
en fait.
Et où on pallie aussi les difficultés financières par des jeux de sponsors masculins, quand même.
Ça existe, le sponsoring, donc ça, il faut expliquer ce que c'est. Et moi, j'ai pu rencontrer des filles comme ça qui disaient être montées à Moscou sur un membre masculin, pour le dire élégamment. Mais voilà, des jeunes filles qui viennent de province et qui font leurs leurs armes à Moscou grâce à l'argent de l'homme qui les entretient.
Vous le disiez, des Ferrari dans les rues, des Porsche dans les rues de Moscou, mais d'immenses inégalités aussi, on en parlera. La neige, la cherté de la vie, le pouvoir politique, la corruption. Moscou est une ville dure aussi.
Très dure.
Le métro aussi, où on oublie toute civilité. Néanmoins, avant de s'engouffrer dans tous ces petits tracas qu'on va évidemment détailler pendant toute l'émission, il y a aussi tout de même de beaux jours à Moscou. Je ne sais pas si on entend bien les petits oiseaux, les enfants qui jouent.
Les enfants qui jouent au parc Gorki, qui est le plus grand parc de la capitale et qui est vraiment très emblématique de la métamorphose récente de la ville.
Le plus beau d'Europe, dit-on.
Pour moi, c'est le plus beau d'Europe. Alors évidemment, je connais pas toutes les capitales. C'est immense. L'hiver, il y a une gigantesque patinoire à ciel ouvert, très très jolie, avec des petits lampions design, des cafés ravissants sur les bords de la patinoire. Et puis l'été, alors là, c'est libre cours à toutes les, je sais pas, la créativité où on peut faire et du yoga et de la danse et simplement lire, se reposer. C'est très beau, c'est-à-dire que y compris le mobilier urbain est très beau, c'est pas du tout endommagé, tout ça est extrêmement propre, très très agréable.
Ça a été financé par la municipalité et des fonds privés.
Ça a été financé également par des fonds privés, c'est-à-dire qu'effectivement certains oligarques sont priés de mettre la main au portefeuille, voilà. Mais il n'y a pas que ce parc. En fait, plusieurs parcs moscovites qui étaient complètement à l'abandon, qui n'étaient plus du tout investis par les habitants, eh bien maintenant ont été complètement réhabilités. Et là, il faut quand même le dire, c'est magnifique.
Voilà. Il faut préciser que Moscou est une ville, Madeleine Leroyer, où l'État dépense en moyenne 4 fois plus par habitant que dans le reste de la Russie.
Oui, si on compte la corruption, évidemment. Mais oui, bien sûr.
Politiquement aussi, il y a une stratégie derrière cela.
Je pense qu'il y a une stratégie un petit peu d'acheter la paix sociale, puisque à l'hiver 2011-2012, Moscou a été à la pointe des manifestations anti-Poutine. Et avec en figure de proue le blogueur anticorruption, on le présente comme ça, Alexei Navalny, qui s'est ensuite présenté à l'élection municipale de Moscou et qui a quand même fait 30% en partant de rien, de zéro. Et donc le pouvoir a vraiment très clairement identifié une menace. Et pour y répondre, il répond pas de façon directe en libéralisant le système politique, mais pour y répondre, eh bien il y a cet embellissement de Moscou qui répond effectivement à certaines des aspirations de la classe moyenne qui émerge à Moscou.
Pas d'élection libre, mais un beau parc pour la classe moyenne.
Все находится в нас. Я люблю нашу зерцать.
Moscou, la ville bling bling côté face et côté pile, la ville plus underground, où on écoute encore ce vieux rock soviétique de Victor Tsoï, Madeleine Loyer.
Absolument, il y a tant de choses à dire sur ce morceau. Alors d'abord, Victor Tsoï, il faut vraiment imaginer que c'est un monument, une légende du rock soviétique. Il est mort dans un accident de voiture en août 1990 à l'âge de 28 ans. Donc pour les Russes, il fait vraiment partie du panthéon mondial de ces rockstars mortes très très jeunes. Ce titre s'appelle Perimien, Khachu Perimien, je veux du changement. Nos cœurs demandent le changement, nos yeux demandent le changement. Donc un tube de la fin des années 70 qui a ressurgi au moment de l'hiver 2011-2012, de l'hiver de contestation
avec les élections
anti-Poutine. Donc,
au moment des élections législatives qui ont été entachées de fraude massive et où effectivement ça a été le plus gros mouvement de population qu'ait connu le pays depuis la chute de l'URSS.
Effectivement. Alors énorme, et en même temps, voilà, c'était pas le Maïdan en Ukraine, hein, c'était encore tout à fait sous contrôle, mais il y avait un vrai élan. Effectivement, ces gens de la classe moyenne qu'on ne voyait pas d'ordinaire dans les manifestations et qui sont sortis. Et moi, j'ai vu mes voisines se mettre à parler politique, mon propriétaire Alexander septuagénaire sortir lui aussi manifester avec sa petite pancarte. Voilà. Tout ça est maintenant sous une chape de plomb.
C'est ça. À la suite de ces manifestations, élections présidentielles, Poutine rempile pour un troisième mandat après une interruption comme Premier ministre. Aujourd'hui, le Moscou qui manifeste, donc pas le Moscou bling-bling, le Moscou qui veut du changement, a disparu ou pas ?
Mais disons qu'il est sous couvercle. La situation politique, et notamment depuis un an avec l'annexion de la Crimée et ce qu'il faut quand même appeler une guerre dans l'est de l'Ukraine, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que vraiment on est dans un délire patriote et patriotique, une sorte de fuite en avant qui se traduit très concrètement aussi dans la ville, puisque Moscou est quasiment recouverte du ruban de Saint-Georges, qui est un ruban orange et noir qu'on voit partout, c'est-à-dire sur un emballage de saucisson comme sur des bannières sur les ponts de la ville.
Et que signifie-t-il ?
Alors, c'est un symbole, historiquement, c'est un symbole de la lutte contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, il a été totalement revisité, détourné, et puis maintenant... voilà, il correspond à cet élan consistant à dire que les Russes sont en train de libérer l'Ukraine des fascistes qui ont pris le pouvoir à Kiev. Donc un délire de propagande et de haine qu'on voit aussi par exemple sur les voitures avec des autocollants très très violents disant mort aux États-Unis, toutes sortes évidemment de grossièretés, d'insultes concernant Barack Obama. Enfin voilà. Donc c'est à la fois une ville complètement créative où il se passe mille choses et en même temps une ville où on ressent très très fort cette chape de plomb politique. Il faut quand même rappeler que depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin, il y a toute une série de lois liberticides qui se sont empilées les unes sur les autres et qui font qu'aujourd'hui on ne peut pas manifester comme on manifestait.
Voilà, fin de financement public sur certaines activités culturelles, etc., où la culture est reprise sous contrôle. Je le disais, Madeleine Leroyer, côté face, la ville bling bling, côté pile, la ville underground est beaucoup plus contestataire, mais en réalité tout ça se superpose, se chevauche. On peut être en talons aiguilles, super manicuré et râler dans sa cuisine contre Poutine, bien sûr.
Ah, complètement. Et ça, c'est une des choses les plus attachantes et les plus intrigantes, peut-être, de Moscou, c'est qu'aucun de nos codes de lecture traditionnels ne fonctionne. Et ça,
c'est
génial.
C'est pour ça que vous êtes dans le studio en direct avec nous sur RFI. Vous restez avec nous, Madeleine Leroy. On se retrouve juste après le flash, notamment dans l'enfer des petites annonces immobilières racistes, la tyrannie des propriétaires quand on est locataire, dans le bling-bling des clubs de nuit. Vous découvrirez aussi les voisins, les fameux taxis brouettes et beaucoup d'autres choses. Mon Dieu, que le temps file vite à Moscou. On se retrouve dans 3 minutes, restez avec nous.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins en direct, à l'heure d'été, avec chaque jour une ville du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville bling bling, Moscou, en Russie, avec Madeleine Leroyer, journaliste. Vous avez vécu 6 ans à Moscou, vous êtes rentrée il y a quelques mois, et vous avez entre autres collaboré à RFI, et vous publiez une vie de pintade à Moscou. Alors après les pintades perchées sur leurs talons dans la neige, le matérialisme aussi mêlé de poésie, d'aspiration au changement pour certains, nous pénétrons dans ce que vous appelez le Moscou à l'envers, c'est-à-dire le Moscou des arrière-cours, Madeleine.
Oui, c'est Moscou face B. J'ai vraiment appris ça en vivant dans cette ville. Il faut gratter, aller gratter le vernis, parce qu'au début, on est vraiment tout à fait déstabilisé par ces immenses avenues. Moi, je me souviens très bien, c'était mon petit ami à l'époque venant me rendre visite. Et il marchait, il faisait des tours de périphérie. C'était l'horreur. Et alors voilà, il faut dépasser ces grandes avenues. Imaginez que souvent, derrière ces façades gigantesques, il y a une ouverture sur une cour, une arrière-cour. Et alors là, c'est un autre monde beaucoup plus intime, beaucoup plus doux, qui s'ouvre avec...
Et les arrière-cours qui sont très grandes, en fait.
Oui, hein. Qui sont très grandes. En fait, ça fait comme un petit parc à chaque ensemble d'immeubles. Donc avec très souvent une Dietzke Plachat, qui est un espace de jeu pour enfants, avec des garages, avec aussi souvent des petits ateliers,
une manucure
des
en sous-sol.
En sous-sol, avec aucune enseigne. Ça, c'est ça. Ça change un petit peu ça maintenant, mais c'est vrai que moi, j'avais l'impression de sortir victorieuse quand je trouvais une adresse,
mais ces commerçants, qui les connaît, qui vient les voir? Certains
les gens
ont juste un soupirail comme fenêtre, absolument invisible de l'extérieur.
Alors, il va y avoir peut-être une petite pancarte dans la rue, parfois une feuille à quatre, enfin, vraiment pas grand-chose, mais c'est la débrouille, en fait, et ça, j'ai adoré ça.
C'est cette
notion du système D, parce qu'on contourne et parce que peut-être que le monsieur qui a sa machine de photocopie paye pas vraiment ses impôts, donc voilà, c'est cette débrouille. Alors, Moscou métabolise tout ça très vite. Maintenant, il y a des belles places de parking avec des parcs-mètres. Il y a de plus en plus des shops avec des vitrines et tout ça est bien calibré. Mais il reste quand même ça.
Des arrière-cours où les voisins se parlent beaucoup.
Où les voisins se parlent, où il y a une vie... Voilà, alors c'est vrai que... Moi, il m'était arrivé cette anecdote avec une voisine, mais vraiment qui me pourrissait la vie. Enfin, faut dire que sa vie, elle, était pas très agréable, puisqu'il vivait à 6 dans un appartement de 50 mètres carrés avec les grands-parents, les parents, les petits-enfants sous le même toit. Donc, c'était cette promiscuité très génératrice de tension. Et puis, dans la cour, un jour, cette voisine qui à peine m'adressait la parole, qui était très désagréable, d'un coup, se vide son sac, quoi, me raconte...
On
est assis sur un banc. Elle, c'est à peine si je sais pas, elle avait enlevé ses lunettes ou je. Et elle, elle parle. Et voilà, c'était un peu le divan du psy improvisé au milieu de la cour. Et ça, je pense que ça reste. Et encore une fois, voilà, c'est le revers de la médaille. On arrive, on se dit, oh là là, les gens sont pas avenants, tout le monde me tire la tronche. Il y a pas un voisin qui dit bonjour. Et puis là, tout d'un coup, quand on rentre un petit peu dans les replis, il se passe des scènes de vie très attachantes.
Alors certains voisins qui nous écoutent se demandent, et finalement, est-ce que c'est difficile de se loger à Moscou et pour combien et est-ce que c'est compliqué, les annonces immobilières, trouver un logement?
C'est très difficile pour ceux qui viennent de l'extérieur, de province, parce que pour eux c'est vraiment très très cher, et là on tombe dans la jungle des annonces immobilières, et c'est vraiment une jungle sans foi ni loi. Il y a un site qui fait référence, un site internet où on trouve vraiment des annonces raciste, c'est rien de le dire, c'est-à-dire en lettres majuscules, slave uniquement, pas de caucasien, pas d'animaux dans la même phrase aussi, c'est bien comme ça, les caucasiens et les animaux, voilà, c'est pareil.
Donc les caucasiens, c'est-à-dire c'est 5% de la population moscovite, hein.
Les caucasiens, caucasiens du sud et caucasiens du nord, parce qu'il y a des caucasiens de la Fédération de Russie, les tchétchènes, les ingouches, les daghestanais, etc. Et puis caucasiens du sud, les géorgiens, les azéris, arrive. Et effectivement, alors je ne parle même pas des immigrés d'Asie centrale qui eux sont vraiment
et des Africains
considérés. Alors les Africains qui sont comment dire cantonnés dans le quartier de l'université Lumumba et puis malheur à eux s'ils s'aventurent ailleurs. J'espère que certains me contrediraient, mais c'est vrai que ça c'est extrêmement choquant. Moi quand j'ai cherché mon premier appartement, j'étais vraiment sidéré par par cette violence et la violence de tout, c'est-à-dire que du coup on paye cash en liquide, donc il faut avoir son argent, faut être prêt à dégainer tout de suite des sommes quand même assez rondelettes, donc ça c'est difficile.
Alors, un appartement de deux pièces
alors il faudrait voir avec le taux de change actuel puisque le rouble a quand même pas mal fluctué cette année, mais disons c'est pas moins de je dirais de 1200 euros, donc on est sur des prix quand même
occidentaux. C'est ça, Moscou est une ville chère.
Moscou est une ville chère pour
dopé le aussi par les expatriés dont les entreprises payent les appartements, etc.
Voilà, alors effectivement il y a cette tendance à louer des appartements gigantesques à des expatriés.
Alors vous racontez des histoires tout à fait sidérantes dans votre livre Une vie de pintade à Moscou sur la toute puissance des propriétaires, mais à un point où ils ont le double de vos clés, où ils peuvent entrer dans votre appartement dans lequel vous êtes locataire à tout moment finalement.
Ah oui, effectivement, mais ça c'est arrivé à tellement d'amis de rentrer chez soi et d'avoir le propriétaire sur le canapé du salon qui s'était servi un verre et qui s'estime effectivement chez lui ou chez elle, qui en général utilise l'appartement comme garde-meuble, donc pour stocker toutes ses vieilleries, tapis inclus. Donc quand on a le malheur de vouloir décrocher le tapis gigantesque qui orne le mur, c'est toute une négociation pendant des jours et des jours de tractation pour pouvoir rouler le tapis quelque part dans un coin. Voilà, effectivement, toute puissance des propriétaires, puisque c'est un marché qui est très peu encadré, les locataires n'ont pas de droits particuliers. On peut voir son loyer augmenter de 30% du jour au lendemain sans avoir rien à dire, sinon s'en aller. Donc ça, c'est effectivement assez anarchique. Le revers de la médaille, encore une fois, c'est que beaucoup de moscovites de souche sont propriétaires. C'est l'héritage de la privatisation dans les années 90.
C'est ça. On est devenu propriétaire du logement qu'on occupait.
Voilà, hein. Exactement. Et ce qui fait que mon propriétaire, moi, qui est un homme absolument charmant, eh bien, lui, il s'est retrouvé comme ça propriétaire de son appartement dans le centre-ville. Et puis, il a hérité de l'appartement d'une vieille tante, celui que donc j'ai occupé. Et avec lui, c'était des scènes magnifique, puisqu'en fait les propriétaires viennent chercher le loyer tous les mois en liquide et à chaque fois eh bien on buvait le thé et ils me racontaient.
Et aux deux extrémités de cette chaîne, de cette difficulté globale à se loger à Moscou, il y a bien sûr une paupérisation croissante avec des gens qui vivent dans des conditions très difficiles, et à l'autre bout des quartiers résidentiels sécurisés en dehors de Moscou.
Ah oui, alors il y a la fameuse
on en dit un tout petit mot et après on prendra le métro.
Rublevka, c'est l'autoroute des millionnaires, et effectivement il faut imaginer sortir de Moscou, filer plein ouest et se retrouver sur une route qui n'est pas du tout une autoroute, donc juste deux voies, et de chaque côté de gigantesques palissades qui abritent les villas des personnages les plus puissants du pays, et notamment Vladimir Poutine.
Et qui ne prennent pas le métro, on s'en doute.
Ботанический сад закрыт на реконструкции. Пользуйтесь северным вестибюлем. Уважаемые пассажиры.
Moscou, la ville bling-bling, qui décoiffe avec vous, Madeleine Leroyer, y compris dans le métro.
Ah, le métro, ça décoiffe. Ça me fait très plaisir d'entendre ce son, parce que c'est vraiment le son de la vie quotidienne. Là, on est dans le temple souterrain de Moscou. Le métro a été conçu pour être le palais du peuple. Donc, il a une architecture vraiment absolument splendide, avec des stations ornées de mosaïques, de marbre, de colonnades, de statues, ce que vous voulez. et un métro, mais alors qui dépote. C'est vraiment très très impressionnant. Et c'est très amusant les annonces, puisqu'en fait c'est une annonce qui invite les chers passagers à être civils et respectueux et à laisser leur place, etc. Bah, moi je peux vous dire que pour avoir une place dans le métro, faut se lever de bonne heure.
Oui. La y compris politesse pour des dames âgées.
Ah, mais les dames âgées, c'est les pires. Elles donnent des coups de canne et tout, c'est la catastrophe. Non, c'est un peu la lutte. En fait, la politesse, et je m'en suis rendu compte, est une notion très occidentale de l'Ouest. Hein. Voilà, c'est pas la politesse au quotidien, parce que les Russes peuvent être ensuite extrêmement gentils.
Tout raffinés. Le monde prend le métro ou non à Moscou, socialement?
Ah, tout le monde ne prend pas le métro. Il y a des gens qui ne mettraient jamais un orteil dans le métro pour quelque prétexte que ce soit et qui préfèrent passer des heures dans les embouteillages.
Donc classe moyenne et en dessous.
Classe moyenne et en dessous, ouais, effectivement.
Moscou Never Sleeps, Digi Smash.
Tout est dit.
Je serais curieuse de savoir à quoi ressemblent ces clubs de nuit à Moscou avec les oiseaux de nuit russes que vous nous avez décrits en début d'émission, en talons d'aiguille, en talons aiguilles et en mini-jupe par moins 20 degrés.
C'est fantastique, là. Je pense qu'il faut reconnaître que le clubbing moscovite, c'est quelque chose de vraiment waouh, vertigineux. Dur aussi, là, avec ses lois. Hein. À l'entrée des boîtes de nuit, il y a le face control. Ce même DJ a fait un tube sur Pacha Face Control. Et
Face Control, ça veut dire le racisme aussi.
Ça veut dire aussi le racisme, mais racisme social, racisme racial. Enfin, c'est vraiment, on ne rentre que si on est susceptible de dépenser allègrement.
Et de boire.
Ou alors de divertir ceux qui dépensent allègrement. Donc voilà. Mais donc il y a ce clubbing, très presque caricatural, vraiment tout ce qu'on peut imaginer, les paillettes, le champagne, les cracheurs de feu, des voitures de luxe suspendues dans les airs au-dessus de la foule qui danse. Et puis il y a aussi maintenant mais toute une foule de clubs qui pourraient tout à fait rivaliser avec des clubs berlinois très underground, des terrasses qui s'ouvrent et au petit matin, puisque l'été le jour se lève extrêmement tôt dans la nuit, donc à 3h du matin le jour se lève
les clubs et les boîtes qui sont ouvertes toute la nuit, beaucoup de commerces,
les services de livraison de nourriture à domicile, certains salons de beauté, donc pas d'excuses, il faut toujours être impeccable.
Alors justement, j'allais vous poser la question, Madeleine Leroyer, et l'amour dans tout ça à Moscou? Les femmes avec leurs conjoints.
Les femmes avec leurs conjoints, ça c'est peut-être un des sujets les plus douloureux et les plus déconcertants. C'est-à-dire qu'effectivement, les rapports entre les hommes et les femmes peuvent être très très dures et les femmes m'ont parfois frappée par le peu d'ambition qu'elles avaient
sentimentalement parlant.
Oui, c'est ça. Un homme qui boit pas, qui tape pas, c'est bien quoi. Ah. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est la caricature, le russe rustre, oui. Macho, le moujik sorti de la taïga. Les chiffres parlent et la violence domestique fait des ravages en Russie, toutes catégories sociales confondues. Ça, c'est
ça ne change pas avec les jeunes générations.
Disons que. Les Russes sont pas plus violents que ou plus goujats que dans d'autres pays. Simplement, là, il n'y a pas de politique de prévention et d'accompagnement. Voilà, c'est là qu'on voit ce pays à quel point il est bancal.
Peu de peines judiciaires pour ces hommes violents.
Peu de plaintes et en conséquence très peu de
peines. En revanche, une flambée des divorces. Vous diriez, Madeleine Laurier, que finalement 30 ans, divorcé, un enfant à charge, c'est le profil type de la Russe moscovite.
Oui, et c'est ce qui était aussi très déstabilisant. Moi, quand je suis arrivée, j'avais 23-24 ans. Et alors là, je rencontrais plein de jeunes femmes surdiplômées, très très belles, avec des enfants. Et je me disais, mais bon, d'accord, c'est pas pareil. Et quelques années plus tard...
L'âge moyen du premier enfant en France, c'est 30 ans, et c'est plutôt en Russie, hein, bien
c'est
sûr.
Plutôt en
Même
Russie.
Si on fait beaucoup moins d'enfants.
Et on fait beaucoup moins d'enfants, mais ça s'explique pour plein de raisons, parce que c'est très difficile de les faire garder, parce que les familles éclatent, donc c'est assez difficile. Mais effectivement, 30 ans, un enfant à charge, gardé par la babouchka, par la grand-mère, c'est une photo assez révélatrice. Par exemple, tous les expatriés justement qui vont travailler dans des grandes entreprises avec un personnel de bureau qui est sociologiquement, on le sait, assez féminin, les comptables, les assistantes, etc. Ben ça, c'est très souvent leur situation d'être comme ça, et avec un courage incroyable et aussi. Moi, je veux pas complètement plomber le tableau. J'ai été frappée par l'ingéniosité et la pugnacité
de ces femmes. Avec des pères, il faut bien dire assez démissionnaires, mais peut-être est-ce le système aussi qui les crée démissionnaires, je ne sais pas, avec leurs enfants. Comment se débrouillent ces femmes, les inscriptions à l'école, etc., dans une ville qui est largement dominée, ça c'est pas propre à Moscou, mais peut-être à la Fédération de Russie, mais largement dominée par la corruption aussi.
Ah, la corruption du berceau au cimetière, hein, puisqu'on
paie des... quotidiennement.
Mais ça veut dire qu'en fait, on peut être amené à payer des pots de vin pour tous les actes de la vie quotidienne, que pour s'assurer d'avoir une chambre individuelle à la maternité et une péridurale bien dosée, et bien on met de l'huile dans les rouages avec un petit billet, et que pour que la morgue est à l'autre bout de la chaîne, hein, pour que la morgue accepte de venir récupérer une dépouille en temps et en heure, un petit billet.
Et donc, y compris pour scolariser les enfants dans des bonnes écoles, parce que l'école publique est encore de bonne qualité, mais comment la corruption finalement est compatible avec une culture de l'exigence scolaire aussi?
Alors ça, c'est un des plus grands paradoxes des Russes, et c'est une des choses contre lesquelles une des choses dont ils auront le plus de mal à se débarrasser, à mon sens, c'est qu'effectivement, culte de l'excellence scolaire, et donc on est prêt à aller soudoyer, acheter le directeur, la directrice d'un établissement scolaire avec soit une enveloppe, soit on va financer du matériel pour l'école. Donc c'est ça, c'est vraiment et jusqu'à l'achat de notes, de diplômes, etc.
Voilà.
Donc,
dure vie des mamans moscovites qui s'échinent, qui sont seules beaucoup et qui s'échinent pour leurs enfants.
Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Слова Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его.
его лицо, чтобы не было в ночами, утолил он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо.
Moscou, la ville bling-bling, racontée par Madeleine Leroyer, qui parfois renonce à l'amour et avec des soirées qui se terminent bien nostalgiques, non ?
Bien nostalgiques. Ça, c'est une chanson vraiment très emblématique. Et donc, elle s'appelle Alexandra, Alexandra. C'est la chanson du film Moscou ne croit pas aux larmes, qui est un monument du cinéma soviétique, un film de 79 qui a été oscarisé et dans lequel Moscou est un personnage à part entière. Et c'est pas juste une vieillerie nostalgique, parce qu'en fait, et ça je m'en suis rendu compte, les Russes n'aiment rien tant que finir une soirée
bien
arrosée à la main
avec une vieille chanson.
Voilà.
Un peu comme si nous on finissait nos soirées avec du Piaf, mais
oui,
on
mais
le
sauf
pas.
Que sauf que Piaf, est-ce que vous chantez la chanson
non.
de A à Z
non, c'est
avec
ça. Non,
toutes
non,
les paroles? Eux, ils connaissent tout le répertoire et vraiment plusieurs fois, je me suis retrouvée. Bon, déjà, je chante très mal, mais alors en plus incapable de chanter une chanson du répertoire français de A à Z, alors que vraiment ils connaissent tout et ils ont vraiment ce goût du lyrisme, alors qu'il se traduit par exemple par le succès fulgurant de Mireille Mathieu en russe aussi ou de Patricia Cass, ou voilà le goût de la chanson, ils aiment qu'on chante.
Et le week-end alors, s'évader après une dure semaine de travail, quitter Moscou, c'est envisageable?
C'est envisageable et c'est même pratiquement une religion. Ça, c'est la datcha, donc la petite maison de campagne. Historiquement, datcha, ça correspond en fait au lopin de terre qui était accordé par le gouvernement soviétique officiellement à des fins de loisirs. En fait, ça
mais
a aidé
pour des
les gens.
Tout de même.
Non, c'était vraiment pour tout le monde. Il y avait différentes datchas. Il y avait les datchas des académiciens magnifiques et puis il y avait les datchas plus ouvrières avec tout un tas de régulations. Il y a des périodes où il était interdit de cultiver des choses, interdiction qui a été levée parce qu'il fallait quand même pallier les manques catastrophiques du système agroalimentaire russe. Donc il y a beaucoup de gens qui, dans les années 90, ont quand même se sont nourris, beaucoup de familles qui se sont nourries avec les légumes de la datcha. Et la datcha,
aujourd'hui, on a une classe moyenne qui va à la campagne le week-end.
Qui va à la campagne, et c'est pas que la classe moyenne, c'est vraiment tous ceux qui ont pu conserver cette datcha plus ou moins modeste et plus ou
donc
moins jolie.
Patin à glace et ok et datcha.
Oui, c'est ça, c'est
ça
pas mal.
Ça. Sur des lacs gelés, bien évidemment.
Oui, ou l'été avec les barbecues de chachlik, les brochettes, les baignades dans les rivières, le lac.
Ah, justement, j'allais à propos d'alimentation, vous posez une toute dernière question, ou presque, Madeleine Leroyer. On a depuis un an des sanctions internationales, des sanctions internationales qui frappent la Russie en représailles, un embargo décrété par Poutine sur certains produits de l'Union européenne et pas seulement d'ailleurs.
Mais des produits alimentaires, c'est-à-dire que Moscou qui adorait la mozzarella, le jambon italien et je sais pas quoi, les pommes de Pologne, et bien tout d'un coup a dû se réorganiser sans ses denrées. Alors pour certains agriculteurs russes, c'est un peu l'aubaine. Il y a aussi beaucoup de mozzarella italienne qui transite via le Kazakhstan et qui s'appelle mozzarella kazakh. Et puis, mais mine de rien, ça fait quand même des difficultés d'approvisionnement. La conséquence concrète, c'est que beaucoup de restaurants ont dû changer leur carte de façon assez drastique. Il y avait beaucoup de cuisine européenne dans les restaurants moscovites, beaucoup de cuisine italienne. Maintenant, certains réapprennent à faire avec le gruau de sarrasin, la betterave, le chou. Voilà. C'était un mouvement qui était déjà amorcé, que j'appelais la perestroïka de la marmite. C'est un peu ce retour aux sources, cette idée qu'on peut être fier de sa propre cuisine. Mais là, ce mouvement, il est encouragé par des choses extrêmement concrètes. C'est que
oui,
c'est difficile.
Plus politique.
Et beaucoup plus politique, oui, ça c'est sûr.
Madeleine Leroyer, vous vivez maintenant en France depuis plusieurs mois. Est-ce que parfois vous êtes étreinte par des réminiscences de Moscou ou un manque de Moscou?
Oui, 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 c'est sûr. Tout au long de cette émission, j'ai eu des petits flashs. Oui, je pense à des petits matins moscovites, parce que j'ai fait la fête à Moscou comme je l'ai jamais faite ailleurs. Je pense aussi à des moments de, je pense, de rare amitié, parce que là, je vais être un peu émue, mais c'est vrai que au-delà de cette cuirasse et de mes amis journalistes, beaucoup d'ailleurs, avec qui au-delà de cette première carapace qui est un petit peu difficile à percer, on ouvre vraiment des relations d'amitié, de loyauté complètement indéfectible.
D'autant plus que vous parlez russe couramment, bien sûr.
Oui, je suis devenue un petit peu moscovite. Les gens me disent que j'ai un accent moscovite snob. Donc bon, voilà, c'est fait.
Merci en tout cas, Madeleine Royer, pour ces scènes de vie quotidienne à Moscou. Il faut vous lire aussi Une vie de pintade à Moscou, paru chez Kahneman Lévy, un bouquin très riche en infos et en même temps assez désopilant, ce qui ne gâche rien pour l'été. Merci à Muriel Pomponne pour ses enregistrements dans le métro et au parc Gorky, à la réalisation Romain Dubrac et au mixage, bien évidemment. Vos réactions sont possibles sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis aussi, vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr. Demain, vivre dans une ville sous tension, Bangkok, en Thaïlande. À demain.